Alors moi, je suis Paul Rondin et je suis le directeur de la Cité internationale de la langue française qui va ouvrir dans le château de Villers-Cotterêts, là où François Ier a signé l'ordonnance qui, en 1539, a fait du français la langue nationale, pas pour faire disparaître les autres langues, mais pour qu'une langue soit un véhicule commun, notamment pour les justiciables, c'est-à-dire un principe d'égalité, pour que chacune et chacun puisse s'exprimer avec la même connaissance de l'autre. C'est vraiment le projet de départ. Alors aujourd'hui, la Cité internationale de la langue française, c'est un port dans lequel on vient, un port à partir duquel on va pouvoir partir aussi, et rencontrer la langue au sens large du terme, c'est-à-dire la langue française, ce sont les langues de France, ce sont des langues régionales, ce sont aussi des langues de la francophonie. Et quand je dis langue de la francophonie, c'est évidemment le français, sauf que c'est le français qui est modifié, qui est réinventé, qui est trituré et qui fait toute sa diversité. Et surtout que c'est surtout pas une langue figé ou un ensemble de langues figées. Et donc c'est cette friction positive que nous avons envie de montrer au sein de cette cité internationale où toutes les structures des Hauts-de-France doivent pouvoir trouver hospitalité, à partir desquelles nous aussi, je le disais, on a envie de rayonner partout dans les Hauts-de-France et bien au-delà, puisque une fois encore c'est un projet international.
Voilà, donc un projet aussi qui aura une dimension recherche, hein, j'imagine.
Ah oui, très forte. Alors, il y a bien sûr une langue plaisir, c'est-à-dire une langue de l'humour, une langue de la chanson, mais il y a aussi tout un volet scientifique par le parcours permanent qui relate l'histoire du français et des langues de France, et puis un volet beaucoup plus recherche où on a envie de s'atteler à ce qu'on appelle le traitement automatique des langues, c'est-à-dire qui est vraiment un enjeu pour le coup international et dans lequel on doit faire en sorte que la France joue son jeu et qu'on ne soit pas simplement dans la déploration que d'autres en Californie ou ailleurs aient inventé la nouvelle intelligence artificielle qui réponde à tout, puisqu'il ne s'agit pas de ça. C'est la question entre l'automatisme et la culture, entre l'agrégat automatique et la culture constituée, la culture humaine, l'intelligence sensible. On a là un vrai enjeu, un véritable enjeu à défendre et on veut aussi que ça se fasse à la cité, ou en tout cas que ce soit hébergé par la cité, et ceci à un niveau régional, national et européen, puisque c'est un projet européen.
Donc cette cité, elle va être dans un écrin magnifique qui est complètement rénové, en cours de rénovation, on en parlera après. Et puis évidemment, c'est une façon de faire revivre ce lieu avec une spécificité qui est assez originale.
C'est une belle idée. Parce que, comme je le disais, c'est un château qui n'a jamais appartenu aux citoyens, aux habitants, puisque pour toutes sortes de raisons historiques, il a été château royal, puis garnison, puis dépôt de mendicité, etc., etc. Il ouvre enfin, et de château royal, on passe à château de la République, puisque c'est vraiment la République française qui finance et ouvre ce château, et qui l'a restauré, le Centre des Monuments Nationaux l'a restauré, pour non pas seulement en faire un monument patrimonial figé, beau certes, mais figé, mais au contraire un lieu de vie, un lieu d'action, un lieu vraiment où il se passe des choses. Donc tout ce qui a pu être sauvé, et il y a un certain nombre d'éléments, l'escalier de la reine, l'escalier du roi, la chapelle, qui sont des endroits magnifiques de ce château Renaissance, hein, qui est vraiment un pur écrin, un pur bijou, comme vous l'avez dit, doit aussi être un lieu très fonctionnel. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir y faire des ateliers, on doit pouvoir y accueillir des résidences, on doit pouvoir y faire des spectacles, et même, on doit pouvoir, dans la grande cour, y faire une brocante, un marché aux arbres, par exemple. Parce que n'oublions pas que le château de Villers-Cotterêts est au milieu de la forêt, ou presque. On entre par la ville, mais on sort dans la forêt de Retz, qui est une des 15 forêts d'exception françaises, qui est sublime. Et donc, ce château qui a été fabriqué pour la forêt, ou par la forêt, ou grâce à la forêt, je ne sais pas comment le dire, doit garder cette absolue coaction, codépendance entre la nature et la culture. C'est vraiment une interaction permanente.
Donc un lieu qu'on ne visitera pas uniquement pour les journées du patrimoine. Maintenant, il y aura toute l'année des animations. Est-ce qu'il y aura aussi une vitrine internet où on pourra accéder aux ressources ?
Alors, vous avez raison de le dire, c'est un lieu qui sera ouvert 12 mois sur 12 et 6 jours sur 7. Donc ça donne vraiment l'occasion d'y venir, d'y revenir, d'y venir y compris pour ne rien y faire, juste pour s'y promener, pour s'y poser, pour y rencontrer des amis ou de la famille. Ça doit être un lieu de rendez-vous, une place publique. Et oui, des contenus, bien entendu, seront diffusés, mais pas seulement sur le site ou sur les réseaux numériques de la cité, mais aussi grâce à la Direction générale de la langue française et des langues de France, grâce à la région Hauts-de-France, au département de l'Aisne, c'est-à-dire tous les relais possibles et imaginables qui voudront s'emparer de ce qui va être produit. C'est vraiment ouvert. C'est-à-dire, chacun doit s'approprier cette cité et tout ce qui s'y produira et le diffuser, s'en servir vraiment et le partager. Donc c'est contributif. Ça n'est pas un équipement culturel hors sol qui saurait à la place des autres ce qui est bon pour eux. Il s'agit vraiment bien de faire ensemble et de se reconnaître ou de se connaître, de naître ensemble.
Voilà, j'imagine avec des connexions avec toutes les bibliothèques de France et de Navarre.
De Navarre aussi, des Hauts-de-France surtout, toutes les bibliothèques, toutes les médiathèques. Vous savez, on a une chance formidable parce que les réseaux parfois mal connus de la littérature, de la langue, du spectacle sont extraordinaires en France, sont uniques au monde. Donc il s'agit bien, s'ils ont envie, de venir. Mais je pense aussi aux associations, je pense aussi aux centres sociaux qui ont leur place dans cette cité et qui doivent pouvoir y trouver de la ressource et un toit, une hospitalité.
Voilà. Et puis aussi, j'imagine, un lieu qui peut être intéressant pour les endroits où dans le monde on apprend le français.
Une des grandes parties du projet, c'est que tous ceux qui parlent le français ailleurs qu'en France, ou tous ceux qui ne le parlent pas mais qui veulent l'apprendre, qui ont du plaisir au français, qui peut être une 2e, 3e, 4e langue, puissent aussi avoir envie de venir. C'est une entrée, c'est une porte d'entrée en France, c'est une porte d'entrée dans la langue et la culture française. Et d'ailleurs, la culture, les cultures, parce qu'il ne faudrait employer qu'un pluriel en matière de culture, ça ne peut jamais être un singulier. Et effectivement, que ce soit nos amis du Québec, plus proches de nous, nos amis belges, ou en Afrique subsaharienne, tous ceux qui ont plaisir, goût à la langue française ou aux langues françaises, dans leur, ce que j'appelle leur trituration. J'aime bien cette idée que ça se triture, que ça se transforme, qu'elle soit jamais terminée, jamais finie, cette langue. Bien sûr, la cité doit être là aussi à la fois un lieu d'envie, de plaisir, de désir de s'y rendre, et puis pourquoi pas de refuge quand on ne peut plus dire, quand on ne peut plus écrire quelque part, se dire qu'à la cité on pourra être accueilli et que la langue sera le refuge de ceux qui en ont besoin.